Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Niner Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Éthique est le grand traité philosophique de Baruch Spinoza publié après sa mort en 1677. Cet ouvrage ne propose pas une morale fondée sur des commandements, la culpabilité ou un dieu juge. Il cherche plutôt à expliquer comment tout ce qui existe relève de la nécessité de la nature. Puis, comment un être humain peut gagner en liberté par une connaissance plus adéquate de cette nécessité. Le livre adopte une forme géométrique inhabituelle, définition, axiome, proposition, démonstration, corollaire et scolie organise le raisonnement. Ces cinq parties vont de Dieu ou la nature à la nature de esprit et du corps, aux affects, à la servitude humaine, puis à la puissance de l'intellect et à la béatitude. Spinoza y construit une éthique de la joie active, comprendre les causes de nos désirs et de nos passions permet de réduire leur emprise. La difficulté formelle du texte accompagne donc un projet très concret, celui de mieux vivre sans se raconter de fables sur notre place dans le monde. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, Dieu ou la nature, une substance unique plutôt qu'un créateur extérieur. Le point de départ de Éthique est une thèse métaphysique radicale, il existe une seule substance infinie, que Spinoza nomme Dieu ou la nature. Dieu ne désigne donc pas une personne transcendante qui déciderait librement de créer le monde, récompenserait les bons et punirait les mauvais. Il est la réalité infinie dont toutes les choses particulières sont des expressions ou des modes. Cette identité entre Dieu et la nature exclut le hasard absolu. Les miracles compris comme rupture des lois naturelles ainsi que les explications par des fins humaines projetées sur le monde. Quand les humains pensent que la nature agit pour leur utilité, ils prennent souvent leurs désirs pour des causes universelles. Spinoza remplace cette vision par une recherche des causes nécessaires. La portée éthique est immédiate, comprendre que nous faisons partie de la nature conduit à abandonner une image flatteuse mais trompeuse de notre exception. Cela ne diminue pas la valeur humaine, cela situe les désirs, les peurs et les capacités de penser dans un ordre intelligible. La liberté ne peut alors signifier une indépendance imaginaire envers les causes, mais une manière plus lucide de participer à cet ordre. Cette conception donne au traité sa cohérence, la réflexion morale repose sur une ontologie et non sur une simple liste de devoirs. Deuxièmement, esprit et corps, deux expressions parallèles d'un même individu. Spinoza récuse la séparation classique entre une âme qui commanderait au corps et un corps qui agirait comme un mécanisme inférieur. La pensée et étendue sont deux attributs par lesquels la substance unique peut être comprise. Un même individu est ainsi exprimé sous le rapport de esprit et sous celui du corps. Il ne faut pas imaginer une influence causale directe de esprit sur le corps, où inversement chaque ordre se déploie selon ses propres lois, tandis que les deux expriment une seule et même réalité. Cette doctrine permet de repenser la connaissance de soi. Une idée devient plus adéquate lorsqu'elle saisit les causes et les rapports qui la produisent, au lieu de refléter seulement une expérience confuse. De même, la puissance de l'esprit dépend étroitement de ce que le corps peut faire, subir et composer avec son environnement. Cette approche évite de mépriser les sensations, les besoins ou les états corporels au nom d'une raison pure. Elle impose plutôt de comprendre les conditions concrètes qui augmentent ou diminuent notre capacité de persévérer et agir. Dans Éthique, la vie mentale ne flotte donc pas au-dessus de la vie corporelle. Les erreurs, les imaginations et les passions doivent être analysées à partir de leurs causes naturelles. Ce cadre reste déterminant pour la théorie spinoziste des affects. Car aucun sentiment ne peut être correctement compris sans prendre en compte la situation de l'individu tout entier. Troisièmement, les affects désirs. Joie et tristesse comme variation de puissance. La troisième partie de Éthique élabore une analyse des affects qui refuse autant la condamnation morale que la simple célébration des émotions. Spinoza part du conatus, effort par lequel chaque chose persévère dans son être. Chez les humains, cet effort, lorsqu'il est rapporté à la conscience, prend la forme du désir. La joie correspond au passage vers une puissance plus grande de agir. La tristesse correspond au passage inverse. Amour, haine, espoir, crainte, jalousie, ambition ou regret dérivent de ces dynamiques élémentaires et des idées qui les accompagnent. Cette analyse est concrète car elle montre que nos sentiments dépendent souvent de causes extérieures dont nous ne mesurons pas la force. Une personne peut croire aimer librement alors que son désir est structuré par une image, une attente sociale ou une rivalité. Spinoza ne demande pas de supprimer les affects par une décision volontaire. Il distingue les passions que nous subissons parce que leur cause nous échappe en partie et les actions qui découlent davantage de idées adéquates. Le problème éthique devient alors celui de la transformation des affects passifs en affects actifs. Une compréhension claire ne fait pas disparaître mécaniquement les émotions, mais elle modifie le rapport que nous entretenons avec elles. Cette psychologie sans culpabilisation explique pourquoi le traité demeure utile pour penser les dépendances, les conflits et les fausses promesses de satisfaction liées aux biens extérieurs. Quatrièmement, servitude et liberté, agir selon la raison sans nier la nécessité. La quatrième partie examine la servitude humaine, non comme une faute morale, mais comme une impuissance relative face aux affects. Une personne est esclave lorsqu'elle est ballottée par des causes extérieures, recherche des objets sans mesure ou poursuit un bien imaginaire au prix de sa propre puissance. Spinoza critique ainsi les illusions de libre arbitre, nous avons conscience de nos désirs, mais nous ignorons fréquemment les causes qui les déterminent. Cette détermination ne rend toutefois pas toute éthique impossible. La liberté consiste à agir autant que possible à partir de la compréhension de sa propre nature plutôt que sous le seul effet de rencontres et de passions fortuites. La raison identifie ce qui est réellement utile au sens de ce qui accroît durablement la puissance de vivre et de comprendre. Elle ne recommande ni ascétisme systématique ni sacrifice de soi. Elle montre au contraire que les humains gagnent à rechercher des relations de coopération, puisque rien n'est plus utile à un humain qu'un autre humain, guidé par la raison. Cette dimension politique et sociale distingue nettement le projet spinoziste d'une morale du retrait. La vertu ne consiste pas à obéir à une loi extérieure, elle est la puissance même de agir selon la raison. Comprendre la nécessité devient donc une ressource pratique. Cela permet de substituer des rapports plus actifs, plus stables et plus communs aux oscillations de la crainte, de la rivalité et de la dépendance. En dernier lieu, béatitude et amour intellectuel, la joie comme exercice de compréhension, la dernière partie de éthique traite de la puissance de l'intellect et de la béatitude. Spinoza y refuse une conception de la sagesse comme victoire totale et instantanée sur les passions. Les affects corporels et les rencontres extérieures continuent de nous affecter. Mais la connaissance peut produire une forme de joie active. Parce que comprendre une chose par ses causes nécessaires réduit la place des images confuses et des attentes illusoires. Spinoza distingue plusieurs genres de connaissances. Après imagination et raison, il décrit une connaissance intuitive qui saisit les choses singulières à partir de leur inscription dans la nature infinie. Cette perspective fonde ce que le traité appelle « amour intellectuel de Dieu ». Il ne s'agit pas de dévotion envers une divinité personnelle, mais de la joie liée à la compréhension de notre appartenance à la nature entière. La béatitude ne vient donc pas après la vertu comme une récompense. Elle est la pratique même d'une vie plus active et plus intelligible. Cette thèse donne une conclusion singulière au livre « La recherche du bonheur ne dépend ni de la possession de biens fragiles, ni d'une promesse de salut extérieur. Elle dépend du développement de idées adéquates, de relations plus rationnelles et d'une joie moins exposée au retournement de la fortune. Le chemin reste exigeant, car la méthode géométrique oblige le lecteur à reconstruire patiemment les enchaînements conceptuels. » En conclusion, éthique convient aux lecteurs qui souhaitent aborder un texte majeur de la philosophie moderne, mais aussi à ceux qui cherchent une analyse rigoureuse des désirs, des émotions et de la liberté. La lecture demande du temps la démonstration géométrique, le vocabulaire de substance, attributs, modes, idées adéquates et affects, ainsi que la densité des enchaînements rend une progression lente préférable. Une introduction. Des notes ou une lecture par partie peuvent aider à distinguer la charpente démonstrative des scolies, où Spinoza développe souvent les conséquences humaines et politiques de ses thèses. Le bénéfice intellectuel est considérable, le livre apprend à remplacer les jugements spontanés par la recherche des causes, à penser les émotions sans les moraliser, et à concevoir la liberté sans la confondre avec une absence irréelle de détermination. Il se distingue des manuels de morale et des traités de développement personnel par son ambition systématique. Son propos sur la joie ne repose ni sur une exhortation ni sur une technique isolée, mais sur une théorie complète de la nature, de l'esprit, du corps et des rapports humains. Par rapport à des philosophies qui opposent raison et passion, Spinoza cherche plutôt à comprendre comment la raison peut produire des affects plus actifs. Cette articulation entre métaphysique, psychologie et éthique explique la place durable de ce traité, il ne fournit pas des règles prêtes à appliquer, mais des instruments conceptuels pour examiner plus lucidement ce qui nous fait agir. Si vous souhaitez soutenir Baruch de Spinoza, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.